BW. Vue d'Allemagne.
La COVID-19, elle revient dans le débat en Allemagne. Et non, vous n'écoutez pas une rediffusion, nous sommes bien en 2024. On vous explique tout cela dans un instant. On revient aussi sur le sujet des cartes de paiement pour les demandeurs d'asile dont on parlait déjà récemment. On vous racontera également cette enquête effrayante encore d'un média allemand sur l'extrême droite. Et puis dans quelques minutes, parti, grand reportage, nous serons en France. 62 ans après la fin de la guerre d'Algérie, les Français sont de plus en plus nombreux à faire des voyages de mémoire en Algérie, justement.
J'en ai donc retrouvé là qui m'ont dit qu'effectivement, ils avaient été torturés là. Mais c'est la fraternisation, malgré tout, avec ces familles.
Reportage à ne pas manquer. Mais d'abord donc, l'actu de la République fédérale d'Envie d'Allemagne. C'est Hugo Flotatalon au micro. Los geht's, c'est parti. Faut-il une commission d'enquête parlementaire sur la pandémie de Covid-19 en Allemagne ? Le débat est lancé depuis une série d'interviews et un article de l'hebdomadaire Der Spiegel sur le sujet. L'idée serait de passer en revue la gestion de la pandémie pour en tirer des conséquences pour d'autres pandémies à venir, peut-être malheureusement. De dire avec le recul si les mesures étaient toutes nécessaires ou si elles sont parfois allées trop loin. De dire si en interdisant par exemple les rassemblements ou les sorties nocturnes, l'État a bien agi ou a été trop autoritaire. Un exercice de démocratie en soi, c'est nécessaire, c'est le rôle du Parlement, disent certains. On en a déjà parlé peut-être assez de toutes ces questions, répondent les autres. En attendant, certains responsables politiques ont déjà reconnu des erreurs. Nous avons pris des décisions pendant la pandémie que je ne soutiendrai plus aujourd'hui, dit par exemple Horst Seehofer au Spiegel. Il était dans le cabinet Covid du gouvernement à l'époque de la pandémie. Le médecin nommé ministre fédéral de la Santé pendant la pandémie aussi en 2021, Karl Lauterbach, reconnaît aussi des erreurs dans l'interview accordée au même journal, dont nous avons fait lire un extrait.
La plus grande erreur a été d'avoir été en partie trop strict avec les enfants et d'avoir sans doute débuté un peu trop tard avec les mesures d'assouplissement. Nous aurions dû en faire plus pour maintenir l'offre éducative dans les écoles. Nous n'avons pas profité de ce temps pour améliorer la numérisation des écoles qui est catastrophique. Mais plus important encore, nous avons trop peu offert aux enfants. Nous ne les avons pas assez suivis sur le plan psychothérapeutique.
Alors, y aura-t-il une commission d'enquête parlementaire ? Ce n'est pas clair encore pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce dossier du magazine Der Spiegel, des organisations civiles se joignent aussi au débat et soutiennent l'idée d'une telle commission d'enquête. On pourrait donc en entendre reparler prochainement.
DW.
Anne Letouzet, vous parlez récemment à ce micro de l'introduction de cartes de paiement au lieu d'argent liquide pour les demandeurs d'asile en Allemagne. 14 lenders sur les 16 que compte le pays ont approuvé fin janvier l'instauration de standards communs pour ce système. Cela doit remplacer les versements d'allocations en espèces. Eh bien, le sujet est revenu tout récemment sur la table lors d'une rencontre entre les ministres présidents des 16 lenders allemands et le chancelier Olaf Scholz. Le chef du gouvernement de Hesse, le conservateur Boris Rhein, s'est félicité des avancées sur ce système.
Il y a 3 ans, je n'aurais jamais imaginé que ce sujet de prestations en espèces ou non déboucherait un jour sur une carte de paiement, que les lenders s'accorderaient sur des standards communs et que le chancelier fédéral veillerait à ce que cela soit ancré dans la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile. Je dois dire que c'est une grande réussite et je crois que personne n'aurait cru cette réussite possible.
Et après cette réunion entre les responsables politiques, on en sait un peu plus sur la mise en place de ce système. Il y aura bien des cartes dans 14 des 16 lenders, mais toutes n'auront pas les mêmes fonctions. Il y aura des contrôles aussi dans certains Bundesländer. L'idée est d'éviter que les personnes envoient de l'argent hors de l'Allemagne à de la famille restée dans le pays d'origine, par exemple. Ailleurs, aucun contrôle ne sera effectué. Certains lenders comme Hambourg permettront de retirer de l'argent liquide avec la carte. Ce ne sera pas possible, en tout cas pas pour la totalité de l'argent en Bavière. Il y a des différences donc. Ces cartes devraient être distribuées dès l'été prochain en Allemagne, dans quelques mois. En attendant, la Bavière lance des projets pilotes dans 4 communes en ce mois de mars. Et le Land de Saxe doit aussi mettre en place cette carte dès le mois d'avril.
DW.
Demnach arbeiten für die AfD im Bundestag mehr als 100 Leute, die auch in rechtsextremen Organisationen aktiv sind.
Ce journaliste de la radio publique allemande raconte les révélations de la radio-télévision publique de Bavière, le Bayerischer Rundfunk. Une enquête journalistique qui montre que des personnes actives dans des organisations d'extrême droite travaillent au Bundestag, employées par le parti d'extrême droite allemand, l'AfD. Des assistants, des collaborateurs qui gèrent des bureaux, des rendez-vous, des questions au gouvernement. Des gens qui travaillent donc dans un cadre démocratique. Problème, ces personnes sont membres d'organisations d'extrême droite radicales en dehors du parti. Des organisations opposées à la constitution allemande, amies avec des fascistes italiens par exemple, ou qui s'entraînent au combat avec des tenues néo-nazies le week-end. Cela concerne plus de 100 personnes. Parmi elles, des membres politiques du parti d'extrême droite AfD en ont même été exclus par le passé à cause de prises de position antisémites par exemple. Mais l'AfD ne voit pas de souci à employer ces personnes aujourd'hui sur des postes financés par le contribuable allemand. DW. L'AfD en Allemagne, dont certains membres se sont réunis secrètement en novembre dernier pour parler d'un plan de remigration, plan pour expulser des milliers d'étrangers et immigrés considérés comme non intégrés, on vous en a déjà parlé ici. Eh bien, le service des statistiques allemand vient de publier des chiffres qui montrent que l'Allemagne serait bien embêtée sans les étrangers et leurs descendants, car les personnes issues de l'immigration représentent 25% de la population active en Allemagne. C'est même 46%, près d'une personne sur deux dans la gastronomie et 6 personnes sur 10 dans le secteur du nettoyage. Alors sont considérées comme personnes issues de l'immigration dans ces statistiques les personnes ayant migré en Allemagne depuis 1950 ou leurs enfants, les personnes dont les parents ont migré. Donc, ces statistiques montrent que l'Allemagne a encore des progrès à faire pour donner les mêmes chances à toutes et tous. Les personnes issues de l'immigration sont moins souvent, en comparaison avec des personnes sans histoire migratoire, à des postes de direction par exemple, moins nombreux aussi dans la police ou le système éducatif.
Vous écoutez la DW.
Vue d'Allemagne, deuxième partie, grand reportage qui nous emmène en France et en Algérie cette semaine. Il y a 62 ans, le 18 mars 1962, les accords d'Évian étaient signés entre les deux pays. La fin de 8 ans de guerre sur le territoire algérien, désormais libéré de la colonisation. Une guerre au bilan humain très lourd. Alors même s'il est toujours difficile de donner des chiffres précis, on parle souvent de 500 000 morts côté algérien, 25 000 côté français. Et ce qui est certain, c'est que la guerre a laissé des traces de la haine, de la rancœur des deux côtés, mais aussi des liens plus amicaux, parfois profonds, entre les deux pays. 6 décennies après la fin du conflit, beaucoup de Français qui ont combattu sur place, d'autres qui y habitaient, retournent là-bas. Des voyages de mémoire, souvent empreints de beaucoup d'émotions. Reportage Nadir Djennad.
Alors, on descend à Batna, oui.
Mais là, tu connais pas Batna.
Alors, non, je connais pas Batna, mais bon, là...
À Limoges, dans le centre de la France, Yves et Jérôme Garot regardent ensemble, dans leur appartement, une carte de l'Algérie. Un voyage est prévu en mai prochain dans l'est du pays. Cela fait 65 ans qu'Yves Garot n'est pas retourné en Algérie. En novembre 1959, il a alors 19 ans et débarque à Alger, comme appelé du contingent. Yves Garot servira sous les drapeaux dans la localité de Beni Melloul, près de Guelma, dans l'est du pays. Âgé aujourd'hui de 84 ans, il veut revenir sur les traces de son passé.
Ce projet s'est décidé parce que, bon, étant donné l'avancement d'âge, je pense que si je n'y vais pas maintenant, je pourrais ne pas certainement y aller. Donc il faut que j'y aille. C'est un pèlerinage.
Donc, on arrivera à Nalba. Ensuite,
Jérôme Garot accompagne son père dans son périple algérien. C'est lui qui s'est occupé de toutes les formalités auprès d'une agence de voyage spécialisée. Mais le parcours dans l'Est algérien suit les volontés du père.
Je veux qu'il soit heureux de le faire et que ce soit le voyage de sa vie. Moi, je suis très attaché déjà aux souvenirs de la famille, des héros de ma famille, il en fait partie.
Jérôme Garot a entendu parler de l'Algérie dès l'enfance. Son père évoquait souvent ce sujet à table. Yves Garot est impatient de faire ce voyage. Il en parle tous les jours. Jérôme Garot l'accompagne pour perpétuer la mémoire familiale et il en parle avec émotion.
Ils ont le mérite d'avoir fait ce qu'ils ont fait, d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu, des choses compliquées. C'était pas facile, voilà. Donc ce sont des personnes qui font ce que je suis.
notre départ de Port-Vendres en novembre 1955.
Loin de là, à Paris, Stanislas Hutin, âgé de 94 ans, regarde, nostalgique, quelques vieilles photos. Il dit avoir été marqué par la guerre d'Algérie. Âgé de 25 ans, il débarque à Alger en novembre 1955. Il reste plus d'un an comme soldat dans la région de Kenchela, dans l'est du pays. La pratique de la torture par d'autres militaires français le hante aujourd'hui encore. Stanislas Hutin est lui retourné en Algérie dès 2004. Dans le village où il a officié comme soldat et instituteur, il voulait absolument retrouver des familles d'Algériens torturés.
J'en ai donc retrouvé là qui m'ont dit qu'effectivement ils avaient été torturés là. Bon, bah, c'était extrêmement douloureux pour les uns et pour les autres. Mais c'est la fraternisation, malgré tout, que moi j'ai pu avoir personnellement avec ces familles, et qui est un souvenir extraordinaire, que je ne peux pas oublier.
Voilà, parce que là, moi, je me souviens très très bien de cette corniche blanche, et
mais de non, passer moi, par là. J'étais trop petite, 6 ans. Je
les histoires comme celle-ci sont nombreuses. À Paris encore, Joël Meskovitz et Annie Charpentier, son sœur, et ont vécu à Alger, de 1963 à 1964. Leur père travaillait dans le sud algérien, dans l'industrie gazière. Âgés de 11 et 6 ans, elle vivait dans la capitale algérienne durant cette période. En janvier 2024, elles partent à Alger pour revoir la maison de leur enfance. Annie Charpentier, âgée aujourd'hui de 67 ans, se souvient.
Quand j'ai vu la maison, ça m'a fait un choc. Mais de bonheur, la nostalgie heureuse. Hein.
Joël Meskovitz, aujourd'hui âgé de 72 ans, se souvient également de l'accueil des voisins.
Ça a été des retrouvailles. Tout le monde est venu au-devant de nous. Un accueil extrêmement chaleureux, aussi bien près de la maison que dans le centre d'Alger.
La Kilmachie comme l'Algérie, comme elle est belle.
Actuellement, l'Algérie est l'un des pays qui reçoit le moins de touristes au Maghreb, contrairement à ses voisins, le Maroc et la Tunisie, d'après le magazine tourmag.com. Et ceux qui s'y rendent sont souvent des touristes avec des intérêts bien particuliers, raconte Benjamin Stora, historien français, spécialiste de la guerre d'Algérie et des relations franco-algériennes.
C'est un voyage à travers des cimetières, à travers des paysages déjà empruntés, des personnes déjà connues qu'on va retrouver. Retrouver aussi, bien sûr, des lieux pour les soldats, par exemple, les appelés du contingent. Le voyage vers l'Algérie, c'est un voyage de mémoire.
En Algérie, des professionnels du secteur se sont spécialisés dans les voyages mémoriels. Des agences organisent des séjours sur mesure à la demande des touristes. Sofiane Lesage dirige l'agence Riwaya Travel, basée à Alger.
C'est généralement très précis, les demandes des personnes qui viennent sur un séjour mémorial en Algérie, ils savent ce qu'ils veulent faire. On a pu réouvrir des cimetières juifs qui n'avaient pas été réouverts depuis parfois plusieurs semaines, que ce soit du côté de Tlemcen ou de Constantine ou même d'Alger.
Ces voyages mémoriels peuvent aider notamment à refermer définitivement certaines cicatrices. C'est le cas pour Jacqueline Gozlan, native de Constantine, vivant à Paris. Elle a 9 ans quand elle doit quitter l'Algérie en novembre 1961, comme beaucoup de Français. Jacqueline Gozlan est déjà retournée plusieurs fois à Alger, Oran, mais pas Constantine. C'était trop douloureux, selon elle. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle envisage de retourner dans sa ville natale.
Vous voyez, j'étais pas prête, au fond. Peut-être c'est pas trop tard parce qu'on va mourir. Ma petite ville, Constantine, je crois que j'ai hâte quand même d'y aller.
Pour ces touristes, ces voyages sont très importants. Un organisateur de voyage sourit. On ne parle pas de réconciliation, mais souvent de retrouvailles entre Français et Algériens, dit-il. Nadir Djenad à Paris pour la Deutsche Welle.
Nadir Djenad, qu'on remercie. Et comme la fin de cette émission approche, merci aussi à Jürgen Kuhn, à la technique aujourd'hui. Rendez-vous, et cette fois je vous le promets, avec Anne Letouzé la semaine prochaine. J'ai dit la même chose à ce micro il y a une semaine et repris finalement la place aujourd'hui. Mais Anne vous rejoint dès la semaine prochaine cette fois. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, alles Gute et à très bientôt. Ciao!